VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 1er août 2023. Il est 19h30 temps universel. Voici le sommaire. La France a commencé à évacuer ses ressortissants et des Européens du Niger 6 jours après le putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La police sierra-léonaise affirme avoir arrêté plusieurs personnes, dont des officiers de l'armée qui planifiaient des attaques. La Cour pénale internationale condamne la joue sur la liste des personnes recherchées en Russie d'une juge ayant délivré un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. En Chine, des pluies diluviennes ont déjà fait au moins 20 morts et 19 disparus. À suivre aussi la minute économique et les sports, mais pour commencer, le journal. La France évacue à partir de ce mardi ses ressortissants et d'autres Européens qui souhaitent partir du Niger. Un premier avion a décollé de Niamey, a annoncé un début de soirée à l'agence France Presse, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. L'avion, un Airbus A330 avec 262 personnes à bord, dont une douzaine de bébés, se posera en début de nuit à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, a-t-elle précisé. La quasi-totalité sont des passagers des Français et il y a aussi quelques ressortissants européens, a-t-elle ajouté. D'autres passagers avec davantage d'Européens sont en train d'embarquer dans un deuxième avion vers 18h20 GMT. Il décollera prochainement également de l'aéroport civil de Niamey, selon elle. Il y a 600 Français qui ont exprimé clairement leur intention de partir et il y a un peu moins de 400 Européens, a-t-elle également précisé. Au total, quelques 1200 Français sont enregistrés sur les listes consulaires au Niger, selon Paris. Un troisième vol d'évacuation est également prévu. La police sierra-léonaise a annoncé avoir arrêté plusieurs personnes, dont des officiers de l'armée qui planifiaient de violentes attaques. Ces interpellations interviennent un an après les émeutes meurtrières d'août 2022 qui ont fait plus de 30 morts, dit l'Édico.
Les suspects prévoyaient d'utiliser les manifestations pacifiques prévues la semaine prochaine pour déclencher des attaques, a fait savoir la police sierra-léonaise. La Sierra Leone a vécu le 10 août 2022 des émeutes durant lesquelles 27 civils et 6 policiers ont péri. Les habitants sortis dans la rue pour faire part de leur ras-le-bol face à l'inflation et l'inaction du gouvernement ont été sévèrement réprimés selon Amnesty International. De nouvelles protestations sont prévues. Le pays a tenu des élections générales le 24 juin dernier et le président Julius Madabio a été réélu pour un second mandat dès le premier tour, selon des résultats officiels contestés par l'opposition. Depuis, les opposants ont boycotté le Parlement ainsi que les postes de gouvernance.
En République centrafricaine, des hommes armés ont tué 13 personnes hier lundi à Diki, un petit village du nord-ouest, toujours en proie à une rébellion, ont indiqué ce mardi les autorités locales. L'attaque s'est produite aux premières heures du lundi dans cette localité située près de la frontière tchadienne à environ 500 km de la capitale Bangui, quand une vingtaine de rebelles ont ouvert le feu sur 13 civils, selon Jean-Gilbert Bagundou, sous-préfet de la Barmingui Bangourane. Le bilan a été confirmé par Ibrahim Senoussi, le maire du village, qui a dit également déplorer 2 blessés. Au Burkina Faso, des coups de feu ont été entendus aux premières heures ce mardi dans le centre de la capitale Ouagadougou. Il s'agissait de tirs de sommation provoqués par la présence d'un individu dans le périmètre de sécurité d'une base aérienne, a affirmé une source gouvernementale. L'autorité sécuritaire se prononcera sur la situation et les motivations d'une telle imprudence, a ajouté la même source. Momentanément interrompue, la circulation avait repris timidement après les tirs, selon des témoins.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le principal diplomate américain chargé de l'Asie de l'Est et du Pacifique a eu, hier lundi à Washington, une discussion franche, substantielle et productive avec son homologue chinois. L'annonce a été faite par le département d'État américain. John Lindon nous en dit plus.
Yang Tao, le directeur pour l'Amérique du Nord et l'Océanie au sein du ministère chinois des Affaires étrangères, a été reçu au département d'État par le sous-secrétaire d'État américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Kindenbrink, et Sarah Berhan, conseillère du président Joe Biden pour les affaires chinoises et taïwanaises. Les deux hauts responsables américains avaient rencontré M. Yang début juin en Chine, quelques semaines avant la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken dans ce pays. Ils avaient eu des discussions franches et constructives sur la manière d'améliorer les relations bilatérales, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et l'envoyé spécial pour le climat, John Kerry, se sont récemment rendus en Chine. Dans son communiqué lundi, le département d'État indique que les deux parties ont eu une discussion franche, substantielle et productive dans le cadre des efforts en cours pour maintenir ouvertes des voies de communication et gérer de manière responsable la relation bilatérale.
En Chine, les pluies diluviennes qui frappent Pékin et la province voisine ont déjà fait 20 morts et 19 disparus, a annoncé ce mardi la télévision publique CCTV. Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian après avoir frappé les Philippines voisines. Des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre sur la grande région de Pékin samedi. En 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. La CPI condamne un nouveau mandat d'arrêt en Russie contre un de ses juges. La juge Tamoko Akan est recherchée pour violation d'un article du code pénal russe, sans précision sur la nature de l'infraction. Pour la CPI, c'est une nouvelle tentative de saper le mandat international de la Cour. Alexandrine Ollognon.
La juge Tomoko Akan vient s'ajouter à une liste de personnes recherchées par le Kremlin après le procureur de la CPI Karim Khan et le juge Rosario Salvatore Aitala. Tomoko Akan est l'un des juges qui ont délivré le 17 mars des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l'enfant. Ils sont accusés de crimes de guerre pour la déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, des accusations rejetées par Moscou. La CPI avait alors promis de rester inflexible dans l'exécution de ce mandat que la Russie, qui n'est pas membre de la Cour, qualifie d'illégal. Toutefois, le président russe ne participera pas au sommet des BRICS fin août à Johannesburg. En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter M. Poutine s'il entre sur son territoire.
Les Émirats arabes unis ont déclaré ce mardi qu'ils autoriseraient les défenseurs de l'environnement à se rassembler pacifiquement lors de la COP28, la conférence de l'ONU sur le climat, prévue du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Lors de la COP28, il y aura un espace disponible pour que les militants pour le climat puissent se rassembler pacifiquement et faire entendre leur voix, a déclaré le gouvernement émirati dans une déclaration conjointe avec la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. De nombreuses ONG avait averti il y a plusieurs mois que les restrictions imposées par l'État du Golfe dans le domaine de la liberté d'expression risqueraient d'entraver la participation des défenseurs de l'environnement. En Syrie, 7 personnes, dont 5 soldats syriens, ont été tuées ce mardi dans une attaque menée par le groupe État islamique contre un convoi de camions-citernes transportant du carburant, a indiqué l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En outre, 4 autres personnes ont été blessées par les djihadistes qui ont tiré avec des mitraillettes et des roquettes anti-chars, ajoute l'OSDH. L'attaque a eu lieu dans une zone désertique sous contrôle du gouvernement syrien située dans la province de Hama. Les États-Unis ont durci ce mardi l'accès sans visa des Hongrois à leur territoire, dénonçant les failles de sécurité dans la politique de naturalisation massive mise en place par le Premier ministre Viktor Orban en 2011. Désormais, l'autorisation accordée aux Hongrois de se rendre aux États-Unis aura une durée réduite de 2 à 1 an et ne sera valable qu'une seule fois, a écrit l'ambassade des États-Unis à Budapest dans un communiqué. Auparavant, les Hongrois pouvaient, comme les citoyens de 39 autres pays, voyager librement 3 mois aux États-Unis autant de fois qu'ils le souhaitent après une simple demande d'autorisation électronique valable 2 ans. Washington avait menacé plusieurs fois de restreindre la circulation, critiquant la distribution de près d'1 million de passeports par la Hongrie à des locuteurs hongrois des pays voisins. Et puis, l'Islande a fermé ce mardi son ambassade à Moscou en raison du conflit en Ukraine, devenant le premier pays européen à prendre une telle mesure. Début juin, la ministre des Affaires étrangères islandaise avait jugé que la situation actuelle ne permettait pas à la représentation diplomatique d'opérer en Russie. L'Islande précise qu'il ne s'agit pas d'une rupture des relations diplomatiques. Dès que les conditions le permettront, l'Islande donnera la priorité à la reprise des activités de l'ambassade d'Islande à Moscou, a précisé la diplomatie islandaise dans un communiqué. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, c'est avec John Lyndon.
Au Nigeria, le président Bola Tinubu annonce des mesures contre le coût de la vie, notamment le déblocage de 200 000 tonnes de céréales. Pour réduire le fardeau de la crise économique, le président nigérian a également promis au moins 240 millions d'euros pour le secteur agricole, 150 millions d'euros pour les PME et 90 millions d'euros pour le secteur manufacturier. La Commission européenne a estimé ce mardi qu'il n'y avait pas de risque pour son approvisionnement en uranium suite au coup d'État militaire au Niger, ceci en raison des stocks déjà constitués. Le Niger est un fournisseur majeur et contribue à la fabrication du combustible des quelques 103 réacteurs en activité dans 13 pays européens, dont la moitié sont en France. En 2022, le Niger était le deuxième fournisseur d'uranium naturel de l'Union européenne, avec une part de 25,38% derrière le Kazakhstan. Les autorités chinoises de régulation d'échange demandent à certaines banques commerciales de réduire ou de reporter leurs achats de dollars américains afin de ralentir la dépréciation du yuan. C'est ce qu'affirment des sources proches du dossier. Cette instruction informelle appelée « Window Guidance » est la dernière d'une série de mesures prises par les autorités cette année pour soutenir la monnaie chinoise.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Bagassi Koura. On commence par le mondial féminin. Les États-Unis se qualifient dans la douleur derrière les Pays-Bas. Pendant ce temps, l'Angleterre obtenait une qualification plutôt facile.
Oui, bonsoir Oumfa, bonsoir à tous. Oui, déjà en tête du groupe D, les Anglaises ont confirmé leurs ambitions en dominant la Chine 6-1 pour assurer tranquillement leur qualification. Les champions d'Europe en titre affronteront en huitième le Nigeria, une des surprises de la compétition, derrière l'Angleterre. Le Danemark, qui a dominé Haïti 2-0, jouera son huitième de finale contre l'Australie, première du groupe B. Plus tôt dans la journée, les doubles tenantes du titre et favorites américaines ont frôlé la catastrophe et l'élimination face au Portugal, tenu en échec 0-0. Les coéquipières de l'attaquante star Sophia Smith ont été sauvées par un poteau sur un tir portugais dans le temps additionnel, leur permettant de justesse d'accéder au huitième de finale. Probablement contre la Suède, ce sont finalement les Pays-Bas qui terminent en tête du groupe E, devant les Américaines, grâce à leur très facile succès contre le Vietnam 7-0, ce qui leur permettrait d'affronter vraisemblablement l'Italie ou l'Afrique du Sud. Ces deux nations s'affrontent demain mercredi avec un avantage pour les Italiennes, 3 points, qui n'auraient besoin que d'un nul contre les Sud-Africaines qui ont 1 point pour voir les 8e, hormis si la Suède est défaite.
Le départ de Sadio Mané est la meilleure solution, dit l'entraîneur du Bayern de Munich.
Oui, Thomas Tuchel se dit attristé que les choses n'aient pas fonctionné pour Sadio Mané au sein du club bavarois, mais qu'il pensait que son départ était la meilleure solution. L'attaquant sénégalais qui a rejoint le Bayern il y a seulement 12 mois devrait s'ajouter au nombre croissant de joueurs en partance pour l'Arabie Saoudite, ancien à Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, dans le cadre d'une transaction d'un montant de 37 millions d'euros. Quitter le Bayern me fait mal, a de son côté expliqué Mané à Sky Germany. J'aurais souhaité une fin différente.
Enfin, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas remporté la moindre victoire lors de sa tournée asiatique.
Oui, le Paris Saint-Germain s'est fait battre en 2 minutes d'inattention par l'Inter Milan, 2-1 mardi à Tokyo. Il n'a toujours pas remporté la moindre victoire lors de sa tournée asiatique, ni accueilli le retour de Neymar, encore resté sur le banc. Après le 0-0 contre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et la défaite contre Cerezo Osaka 3-2, le chantier de Luis Enrique n'avance guère. On n'est pas inquiet, hein, assure Lucas Hernandez.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le Burkina Faso et le Mali ont mis en garde hier lundi contre toute intervention militaire au Niger pour établir Mohamed Bazoum, le président renversé par un putsch. Les militaires qui dirigent ces pays affirment que l'intervention de la CEDEAO serait considérée comme une déclaration de guerre à leur propre pays. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint au Maroc Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute.
Oui, les déclarations des juntes maliennes et burkinabées s'inscrivent dans le contexte actuel où l'éventualité d'une intervention militaire au Niger pourrait être un signal assez fort par rapport à ces régimes-là. Maintenant, il faut savoir, il faudra s'interroger si ces États-là ont les moyens des menaces qui sont en train de proférer à l'égard de la CEDEAO et à l'égard des États de la région, notamment s'il s'agit du Burkina Faso et du Mali. On sait que déjà la situation sécuritaire interne dans ces pays préoccupe les militaires au pouvoir. Maintenant, il faudra avoir aussi derrière ces déclarations un signal assez fort qui montre que ces États n'ont pas intérêt à vouloir avoir l'opération de la CEDEAO réussir, mais aussi que on est entré dans une phase d'instabilité où la militarisation des régimes politiques est quelque chose qu'il faut observer et qui est en train de prendre de l'ampleur.
Est-ce que vous pensez que c'est une menace qui peut être dissuasive au recours à la force de la CEDEAO?
Je ne crois pas. Le leadership du Nigeria, avec l'arrivée de Tinubu, les certitudes par rapport au soutien international, parce que la CEDEAO n'aurait jamais pris le risque d'annoncer une intervention en cas d'échec des négociations en un délai aussi court, si la CEDEAO n'avait pas les assurances de soutien international. Le seul problème qu'il peut y avoir, ce serait un veto russe, et je ne le crois pas. Même la Russie s'est inscrite dans la même dynamique, ayant elle aussi besoin du soutien des pays de la région aujourd'hui. Et cela m'étonnerait fort que le Niger puisse, le régime actuel puisse tenir face à toutes ces mesures au regard de l'enclavement de ce pays-là, l'influence du Nigeria et de son poids stratégique, notamment en termes de fourniture d'énergie et sur le plan sécuritaire, le fait que des pays comme le Bénin soient le port du Niger et que dans les frontières du Takogourma que le Niger partage avec le Mali et le Burkina Faso, ce serait très difficile pour une issue parce que les groupes terroristes déjà occupent une bonne partie de cette région-là.
Il y a donc une nouvelle dynamique par rapport aux déclarations du gouvernement de Ouagadougou et de Bamako. On peut se demander où sont passés les djihadistes.
Aujourd'hui, quelle que soit la situation, pour l'instant, on peut dire que les seuls gagnants potentiels de l'escalade ou de l'enlisement de l'opération, ou en tout cas de cette situation, ce seraient les groupes djihadistes qui aujourd'hui profiteraient de cette situation de chaos. Mais je crois que le Burkina Faso est assez préoccupé au plan interne par la situation sécuritaire, avec seulement aujourd'hui 40% du territoire sous le contrôle de l'État. Mais le Mali aussi doit faire face à des menaces qui persistent aussi bien au centre qu'au nord, et que je crois que ce sera assez aventurière pour ces pays-là de vouloir intervenir au cas où se déclencherait une opération militaire.
C'était Bakary Sambé, directeur du Timbuktu Institute. Toujours en rapport avec une éventuelle intervention militaire au Niger, la junte au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 a mis en garde la CEDEAO. L'extension préconisée par l'organisation sous-régionale entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger, alertent les autorités militaires guinéennes dans un communiqué. Notre correspondant Zakaria Camara nous en dit plus.
Le CNRD, Comité national du rassemblement pour le développement, juge les sanctions de la CEDEAO illégitimes et inhumaines. Pour Bolokada Touraman, militant du RPG Arc-en-Ciel, parti d'Alpha Condé, l'organisation sous-régionale n'a pas montré la même fermeté à l'encontre des précédents coups d'État.
Moi, je pense que la décision de la CEDEAO devrait être appliquée dans sa rigueur, parce que les putschistes là n'ont aucune légitimité aujourd'hui pour parler au nom du peuple. Il va falloir que vraiment une intervention militaire pour dégager tous ces militaires qui sont en train d'aujourd'hui d'évincer les présidents démocratiquement à la tête de leur pays.
Les militaires au pouvoir en Guinée apportent leur soutien aux nouvelles autorités du Niger, malgré les sanctions préconisées par la CEDEAO. À Conakry, la capitale, on ne se fait pas prier pour réagir à cette actualité. Moussa Traoré.
Ils ne doivent même pas rêver, parce que si les enfants d'un pays souverain prennent une décision, et vous levez pour... Mais ça, c'est impensable. La CEDEAO ne peut pas manquer de solution. Toutes choses, il faut parler. Et à ne pas encourager les chefs d'État qui veulent tripatrier les constitutions.
La Guinée ne partage pas de frontières avec le Niger et reste loin du contexte sécuritaire que connaît ce pays sahélien. Pour Mamadou Diambaldé, analyste politique, la jeune Guinéenne est guidée par la géostratégie.
En se désolidarisant de la CEDEAO, veut exprimer clairement qu'il ne partage pas la position de l'institution régionale. Cette fissure au sein de l'institution fragilise un peu cette dynamique qui visait à aller de force déloger, si possible, comme dernier recours, bien sûr, parce qu'il y a déjà des pourparlers.
La Guinée réaffirme sa vision panafricaniste, ont indiqué les autorités guinéennes, qui apportent leur solidarité à la population nigérienne et invitent le CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Zakaria Kamara pour VO Afrique, Conakry.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Sénégal, les projets présidentiels de l'opposant Ousmane Sonko sont compromis par une nouvelle série d'accusations criminelles et la dissolution de son parti avant les élections de février prochain. L'homme politique de 49 ans a été officiellement inculpé lundi d'appel à l'insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État, d'association criminelle avec un groupe terroriste et d'autres délits. Des accusations qui, selon Ousmane Sonko, ont été conçues pour le tenir à l'écart de la vie politique. Pour une analyse, Alexandre Trelognon, adjoint Romaric Lucien Badoussi. Il est spécialiste en sciences politiques et relations internationales et enseignant-chercheur au Bénin.
Nous approchons de la présidentielle de février 2024 et on sent que les deux camps en présence, à la fois le camp présidentiel et l'opposition, sont chacun de plus en plus radical dans sa position. On voit que M. Sonko est déterminé à aller au bout de sa logique de ses ambitions politiques. Et le gouvernement qui aussi tient à quand même maintenir les rênes du pouvoir, même si Macky Sall a annoncé qu'il ne sera pas candidat.
Comment, selon vous, ces derniers développements de l'actualité sénégalaise peuvent affecter le paysage politique, bien sûr, en vue de ces élections de 2024?
Aujourd'hui, chacun est en train de fournir ses armes pour aller vers ces élections. Et l'armée judiciaire de Ousmane Sonko, visiblement, l'empêcheront d'aller à ces élections. Donc, c'est une situation qui aussi sur l'horizon pour cet opposant. Dans la perspective de 2024, aujourd'hui, il y a une grande confusion. Mais, cela dit, il y a quand même eu le dialogue national qui a été initié fin de dernier par le pouvoir du président Macky Sall. Cela a permis quelque peu de calmer un peu le jeu politique, puisque certains opposants, et non des moindres, Karim Ouad et Khalifa Sall, ont participé à ce dialogue. Et le pouvoir envisage, en tout cas dans les recommandations de ce dialogue, il est mentionné que des dispositions seront prises pour les rendre éligibles. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la personnalité qui a de fortes chances de l'emporter face au candidat du pouvoir c'est bien entendu Ousmane Sonko.
Donc, selon vous, malgré l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'opposition a toujours une carte à jouer pour la présidentielle de 2024 ?
L'opposition a toujours une carte à jouer, étant donné la forte présence du vote contestataire dans la culture politique des Sénégalais. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément un vote d'adhésion, mais ça pourrait être un vote contestataire pour justement sanctionner le pouvoir de Macky Sall, qui, il faut quand même l'avouer, n'a pas démérité sur le plan de la gouvernance. Et aujourd'hui, les indicateurs économiques du Sénégal sont loin d'être alarmants. Tout est envisageable. Si les dirigeants maintenus que Ousmane Sonko n'arrive pas à concourir, cela pourrait avoir un effet démobilisateur sur ses électeurs. Mais il est aussi possible que, dans un élan de colère, les Sénégalais opposés au pouvoir de Macky Sall se mobilisent massivement, toujours pour aller censurer le pouvoir et pour porter un opposant au pouvoir, quelle que soit la famille politique dont il sera issu.
C'était Romaric Lucien Badoussi, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Il est enseignant-chercheur au Bénin.
This is the voice of America. Washington, D.C.
D.C., Washington D.C., où se déroule le sommet des Yali, l'initiative des jeunes leaders africains en ce deuxième jour du Mandela Washington Fellowship Summit. Le clou des activités a été l'intervention de Samantha Power, administratrice de l'USAID, qui a interpellé les plus de 700 jeunes leaders africains sur leurs responsabilités dans le développement du continent. Yacouba Ouédraogo fait le point.
Le contexte actuel obligeant, l'administratrice de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, est revenue sur le coup d'État au Niger, le retour à la démocratie en Gambie, entre autres. Samantha Power fait un lien entre bonne gouvernance, changement climatique, sécurité et développement.
Il s'agit d'outils différents dans une même boîte à outils. Et ce que je viens de décrire ne fait que confirmer qu'ils sont tous liés parce que le changement climatique, bien sûr, exacerbe l'insécurité alimentaire. Lorsque les gens ont faim, ils peuvent être plus enclins à suivre un recruteur extrémiste, non pas parce qu'ils partagent les valeurs de ce recruteur, mais parce qu'il leur offre peut-être un emploi ou un revenu quelconque.
Nous croyons à la société civile et au gouvernement qui rendent des comptes, a ajouté Samantha Power, précisant que les États-Unis ne veulent pas se substituer au peuple et au gouvernement pour développer leur pays. Edouard Ramson Agbor est un jeune leader camerounais qui travaille dans l'agriculture. Pour lui, l'Afrique reste le continent de l'avenir.
D'ici 2050, la population de l'Afrique va doubler. Une sur quatre personnes sur cette terre, ici 2050, donc ça c'est 27 ans à venir, sera en Afrique. Donc je pense que le nouveau marché c'est l'Afrique. Et je trouve qu'avec la technologie, avec la terre, parce qu'on a 60% des terres fertiles pour l'agriculture, ça se trouve en Afrique. Donc je pense que tout ça là c'est juste pour travailler avec nous, pour assurer que demain, avec l'abondance de ressources qu'on a, okay, le monde sera stable.
L'Afrique aura donc besoin de nourrir ses populations par elle-même, même si la collaboration avec l'extérieur va continuer. Pour Samantha Power, ces défis futurs nécessitent une redirection de l'aide fournie par les États-Unis à travers leur agence. Elle a souligné que la grande majorité de l'intervention de l'USAID depuis de très nombreuses années n'est pas destinée aux organisations locales, mais à des organisations basées aux États-Unis ou à des organisations internationales travaillant auprès des communautés locales dans les pays concernés.
Nous essayons de modifier notre modèle d'assistance et de transférer le pouvoir de définir l'ordre du jour, de suivre les progrès, de changer de cap lorsque cela est nécessaire, afin de transférer ce pouvoir et cette initiative aux ressortissants des pays dans lesquels nous travaillons et fondamentalement aux organisations locales ou aux acteurs du gouvernement local.
Lionel Kabeya est un jeune leader congolais. Pour lui, cette clarification est importante.
On a eu une claire vision sur la manière dont intervient les États-Unis, notamment USAID, sur le continent. En faisant ce lien-là entre la sécurité, la paix, la bonne gouvernance et également les développements économiques qui sont complètement liés. On ne peut pas développer le secteur privé quand on n'a pas la paix. On ne peut pas développer un secteur privé lorsqu'il y a une mauvaise gouvernance. Et donc c'est un triangle qui doit rester en équilibre et qui explique mieux et justifie la manière dont les États-Unis notamment interviennent dans nos différents pays pour différents projets de développement.
Cette édition 2023 du Mandela Washington Fellowship Summit prend fin ce mercredi avec la cérémonie de clôture qui sera présidée par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Pour rappel, ce sommet de 3 jours couronne 6 semaines passées par ses plus de 700 jeunes leaders africains dans 28 universités américaines dans 3 principaux domaines. Le leadership civique qui touche des acteurs de la société civile, la gestion des affaires ou le leadership en business et la gestion des affaires publiques.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Koumpa, ainsi va le monde aujourd'hui. Au revoir.